Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du samedi consacrée aujourd'hui à la culture, à vos courriers et à la littérature. Rose Regla est pianiste et professeure au Conservatoire de Bordeaux où elle accompagne les classes de danse tout en étant chef de chant aux Amis du Grand Théâtre de Bordeaux. Le dimanche 13 mai, Rose Regla et la soprano tchèque Stella Maresova ont donné un concert au Ménil Saint-Martin, près de Bordeaux, un concert organisé en hommage à l'ancien président Václav Havel. Une occasion pour Magdalena Hrozinková, qui a pu participer à cette soirée, de rencontrer Rose Regla, une passionnée de la musique tchèque.
Culture sans frontières.
Rose Regla, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez à Bordeaux, mais vous êtes née à Paris, dans une grande famille. Vous avez sept ou six frères et sœurs.
Frères et sœurs, oui. J'étais la seule à faire de la musique, mais il y avait le grand piano à queue de ma grand-mère qui était là dans le salon. Et je crois que dès que je suis marchée, j'ai mis mes mains sur le piano, et j'avais des sœurs qui chantaient beaucoup de variétés, et j'ai tout de suite accompagné mes sœurs dans des accompagnements de variétés. C'est-à-dire qu'en fait, l'harmonie est arrivée complètement naturellement. Voilà. Le piano était un refuge, certainement. Voilà. Un petit endroit où je pouvais me cacher.
Et quel a été donc votre parcours artistique et votre parcours de vie?
J'ai travaillé à Paris avec un professeur qui était ami avec Yvan Lefébure, qui était une immense pédagogue. Et donc j'ai pu bénéficier comme ça de cours de ce très très grand professeur. Et c'était un enseignement qui n'était pas basé sur la, je dirais, la brillance et la vélocité. C'était un enseignement sur l'harmonie, sur le son, la technique du son, la sonorité. Voilà, donc ça, j'ai fait mes études à Paris, donc avec des professeurs particuliers. Et puis, je suis arrivée à Bordeaux, où là, je suis allée en musicologie, en faculté de musicologie. Et puis j'ai intégré le conservatoire de Bordeaux comme professeur de piano pendant 10 ans à peu près. Et ensuite, je suis rentrée dans les classes de chant. Je suis devenue accompagnatrice des classes de chant. Mais là, ça fait quelques années que je suis accompagnatrice des classes de danse du conservatoire de Bordeaux. Donc j'ai fait un petit peu tout le tour. Voilà, ce qui est très très différent parce que là, c'est basé sur de l'improvisation. Mais je m'occupe toujours des chanteurs, parce que j'aime beaucoup les chanteurs et je m'en occupe toujours beaucoup. Voilà. Mmh. Et puis moi-même, j'ai fait du chant, donc j'ai beaucoup travaillé aussi la technique vocale. Et donc j'ai beaucoup tourné autour du chant. Donc c'était plus le piano pur. Je n'arrive plus à imaginer jouer du piano seul. Il me faut un partenaire. Voilà. Mmh.
Quelle est justement la spécificité de ce travail d'accompagnement?
Eh bien, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement pur, où là on accompagne dans un récital. Il y a la partie purement qui vous concerne, c'est-à-dire pianistique. Mais c'est vrai qu'on peut donner des conseils, par exemple, à un chanteur quant à l'ordre d'un concert, comment est-ce qu'il va équilibrer son récital. Voilà, comment ne pas trop se fatiguer, ça c'est l'expérience qui peut aider un chanteur. Et puis, lors du récital, eh bien, quand on sent qu'il faut un peu l'aider, un peu avancer, le soutenir, le rassurer, ça c'est toute une partie très psychologique de l'accompagnateur, qui est à la fois un père et une mère. C'est très 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 curieux avec les chanteurs, on a comme ça une espèce de rôle. Voilà. Et puis alors, par contre, le travail de chef de chant, ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire c'est un travail sur les rôles dans l'opéra. Alors là, ça c'est donner les références, où est la tradition dans l'opéra, comment se chante le bel canto italien qui ne se chante pas de la même manière que l'opéra allemand, comment faire pour que le parcours soit possible dans un opéra entier, c'est-à-dire là aussi comme un parcours sportif, c'est-à-dire quels sont les endroits où on peut se reposer, ou les endroits au contraire il faut y mettre un coup. C'est une gestion quasiment sportive de la situation. Puis là, le travail de la langue, voilà, qu'un chanteur chante parfaitement l'allemand, l'italien, les accents toniques, ça c'est encore un autre travail. Voilà. Mm-hmm. Enfin, c'est très vaste, finalement. Oui, c'est une ouverture très, très grande.
Mm-hmm. Quels sont les chanteurs avec qui vous avez aimé travailler ou vous aimez travailler et pourquoi ?
Il y a eu une mezzo-soprano qui s'appelait Martine Olmeda. Je crois qu'elle ne chante plus beaucoup maintenant, mais elle a été une très belle Charlotte dans Werther, elle a fait beaucoup de Carmen, et j'étais sa pianiste, sa chef de chant, et c'était quelqu'un qui avait une belle voix, pas particulièrement extraordinaire, une belle voix, mais extrêmement musicienne, et c'était quelqu'un avec qui j'arrivais totalement à être en fusion lors des récitals. Ça, c'était très étonnant, c'est-à-dire qu'elle... son corps, j'avais son corps complètement en moi quand elle chantait, au niveau respiratoire, au niveau longueur de phrase. Et musicalement, c'est quelqu'un avec qui j'étais totalement en osmose. Et c'est-à-dire que là, je n'entends plus... Je crois que les chanteurs avec qui j'aime travailler, c'est donc ceux pour qui... ou avec qui je n'ai pas que la voix. C'est-à-dire, voilà, j'ai des musiciens, j'ai des instrumentistes. Voilà, ça, c'est vrai qu'il faut que ça soit intéressant. Et là, c'est passionnant. Que la voix, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils disent quelque chose, ou musicalement, ou dans le texte, mais dire quelque chose, pas que du son. Voilà.
Et avec Stella Marisova, comment ça se passe ?
Eh bien, ça fait un certain temps qu'on travaille ensemble. Elle m'a ouvert évidemment beaucoup de portes sur ce pays. Et musicalement, j'ai découvert évidemment une musique que je ne connaissais pas, basée sur des rythmes qu'on n'a pas du tout en France, parce qu'on n'est pas très populaire en France. On a des mélodies, mais on n'a pas le style populaire. Donc là, même avec Martineau, des compositeurs comme ça, on a vraiment des musiques avec des contretemps, avec des simples et en même temps. Pas si simple que ça. Donc ça, c'était très intéressant pour moi de découvrir des mélodies de Dvorak que l'on, par exemple, aussi que l'on connaissait. Bon, moi, je connaissais les chansons de Tsigane de Dvorak, mais pas du tout les mélodies dans le style populaire. Ça, vraiment, on les trouve pas. Donc ça, on connaît très très mal. Donc c'était une ouverture. Et puis sur les compositeurs actuels, parce que Stella, elle chante avec des compositeurs qui écrivent pour elle. Donc moi, j'étais directement la faisant travailler avec des partitions contemporaines de notre temps qui arrivent de Tchéquie. Donc c'est très intéressant, évidemment, très très intéressant. Et elle m'a proposé de faire un voyage avec elle. À l'époque, je chantais avec elle et donc on est allé en Tchéquie. Donc c'était quand même une grande aventure.
C'était en quelle année ?
Alors, il me semble que ça devait être en 2000, je dirais 2001. Je crois que c'était en 2001.
Ça fait longtemps déjà. Quels sont vos souvenirs de ce voyage, cette tournée ?
Alors, j'ai le souvenir... on avait fait beaucoup de choses. On avait visité des châteaux. Ça, c'était tout à fait avec beaucoup de chasse. J'ai des souvenirs de chasse, beaucoup de choses comme ça. J'ai des souvenirs de... J'avais été logée par un couple à Radoxralové. Pas si je prononce bien.
Très bien.
C'était un couple, lui était ingénieur et elle était professeure de piano au conservatoire de Radoxralové. J'avais été frappée, je pense, de la manière dont le régime les avait marqués, le régime communiste les avait marqués. C'était encore des gens... On voyait que c'était des gens qui avaient eu peur pendant longtemps. À 8h30 du soir, ils m'ont dit au revoir, et ils m'ont reconduit à ma chambre et ils sont allés regarder la télévision. Et ça, c'est vrai que, évidemment, c'était une chose pour moi française de ne pas être reçue dans leur salon et pas bavarder. Mm-hmm. J'étais très étonnée. Et en même temps, c'était des gens totalement charmants.
Et depuis, vous n'êtes plus retournée en République tchèque ?
Non, mais ce que j'ai gardé, c'est la prononciation. Donc, quand moi-même, je chante ou j'accompagne du tchèque, à part un petit coup de téléphone à Stella pour dire c'est bien comme ça que ça se prononce, mais il y a la prononciation qui m'a beaucoup intéressée. Donc, ça reste dans les duos de Dvorak. J'ai la langue qui m'est resté dans l'oreille, voilà.
Et pour revenir à la musique tchèque, quels sont donc vos compositeurs préférés ?
Ah, je crois que j'aime beaucoup Dvorak, c'est vrai. Je crois que j'aime beaucoup Dvorak, j'ai joué beaucoup les danses slaves à quatre mains, encore l'année dernière, on avait fait tout un concert. Là, à l'occasion de ce concert, Stella m'a donné des partitions de Smetana que je ne connaissais pas du tout. Jana Tchèque, qu'on ne joue pas non plus. On a les opéras de Jana Tchèque, mais la musique de piano de Jana Tchèque, non, c'est vrai que... ça, c'était une découverte. Toujours un petit peu difficile, parce que il faut rentrer dans cette musique qui n'est pas du tout la même musique, mais même que, je ne parle pas de même français, même que Schumann, Brahms, la musique allemande, c'est complètement différent. Il y a toujours, tout d'un coup, on a une mesure à un temps, brutalement, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout dans la tradition de l'écriture pianistique. Voilà. Donc c'est très surprenant et très intéressant.
Nous espérons que vous êtes nombreux à écouter ou tout simplement lire sur notre site le programme bimensuel qui est consacré à votre courrier. Alena Gebertova, le plaisir de vous en faire partager quelques exemples.
Courrier des auditeurs.
Plusieurs d'entre vous ont évoqué dans vos missives adressées à Radio Prague le 67e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Celle-ci étant célébrée en République tchèque comme dans d'autres pays européens le 8 mai en tant que fête de la victoire. Philippe Aubre a réagi à l'émission que nous avons diffusée le 9 mai dernier et qui a rappelé l'écrasement du village de Lidice le 10 juin 1942, un des événements les plus douloureux que le pays tchèque ait connu sous l'occupation nazie. En ce qui concerne le projet mis sur pied à l'occasion du prochain anniversaire de cet événement, consistant à reconstituer l'atmosphère du village avant la tragédie à l'aide de documents audio, notre auditeur a exprimé une légère inquiétude.
La tragédie de Lidice doit interpeller tous ceux qui se conduisent en être pensants. Ainsi, cette reconstitution du village ne va-t-elle pas rappeler des souvenirs trop forts ?
Comme nous l'avons déjà dit dans notre précédente émission, on peut s'attendre à ce que le projet joue dans une certaine mesure sur les émotions des visiteurs. Mais il est tout aussi vrai que l'ambition de ces auteurs était avant tout d'évoquer honnêtement le souvenir des victimes innocentes du massacre, qui ne cesse de nous bouleverser. En témoigne le beau succès remporté par un nouveau long-métrage intitulé « Lidice », dont le scénario a été inspiré de la tragédie de ce petit village situé dans le district de Kladno, non loin de Prague. Dès sa sortie en salle, il y a un an, le film a effectivement atteint un taux de fréquentation très élevé. Christian Guibaudeau s'est arrêté pour sa part sur la date du 9 mai, en nous signalant.
Aujourd'hui, c'est le 9 mai, journée de l'Europe. Cette journée est pratiquement passée sous silence en France. Et même dans votre bulletin d'information, il me semble que je n'en ai pas entendu parler. Cette journée est-elle encore fêtée en Tchéquie, ou du moins les Tchèques connaissent-ils son existence ?
Force est de constater que rares sont les Tchèques qui réalisent que le 9 mai est la journée de l'Europe. En souvenir de la déclaration du ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman, qui a énoncé en 1950 les idées fondatrices de l'Union européenne. D'autant moins que la côte de l'Union européenne aux yeux des Tchèques est aujourd'hui, 8 ans après l'adhésion du pays, plus basse que jamais. Toutes sortes d'événements et de festivités se sont toutefois déroulés sous les couleurs européennes, à Prague et à d'autres endroits. À noter aussi que pour plus d'une génération de Tchèques, le 9 mai a été pendant de longues décennies la date marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci en raison du fait que sous le régime communiste, à l'instar d'autres pays satellites de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie était habituée à célébrer la victoire et la fin de la guerre justement le 9 mai, avant de se joindre au reste de l'Europe qui célèbre la victoire le 8 mai. Et passons encore une fois à la lettre de M. Guibaudeau dans laquelle nous avons également pu lire.
Dans quelques jours, le président François Hollande, nouvellement élu, prendra ses fonctions officiellement. Comme le veut la coutume, il sera décoré de la Légion d'honneur, plus haute distinction française. Cela m'amène à vous poser une question. Quelles sont les distinctions ou autres décorations à un usage en République tchèque ?
La plus haute distinction qui existe en République tchèque est l'ordre du Lion blanc. Il était décerné à titre militaire ou à titre civil déjà sous l'ancienne Tchécoslovaquie, sur la base d'une loi adoptée en 1920. Il peut être accordé aussi à des étrangers. Parmi les récipiendaires français de cette distinction, on ne citera que François Mitterrand ou Jacques Chirac. Parmi les hautes distinctions d'État, il faut mentionner aussi l'ordre de Tomáš Garrigue Masaryk. Les deux plus hautes distinctions sont prêtées chaque année à des personnalités choisies. À l'occasion de la fête nationale du 28 octobre, lors d'une cérémonie qui se déroule au château de Prague. Cette semaine, nous avons également reçu une missive d'un auditeur français, William Oncourt de Gonesse, qui, avec ses 13 ans, est peut-être le plus jeune parmi ceux qui nous écoutent et qui ont également pris l'habitude de communiquer avec nous par le courriel. Il nous a écrit.
Je suis enfin de retour. Je vous fais part d'un rapport d'écoute sur WRN à 14h UTC. Je vous prie de m'excuser pour cette absence, mais je vous ai écouté pendant un moment, puis j'ai repris l'écoute ce 21 avril. D'autre part, je n'ai toujours rien reçu de votre part, mais j'ai déjà envoyé mon adresse. Je vous fais toujours confiance à votre station et à l'équipe de Radio Prague.
Merci, cher ami, pour votre message. Je tiens à vous assurer que vous aurez d'ici peu une réponse de notre part, accompagné d'une QSL. Merci également à vous tous qui nous avez envoyé vos rapports d'écoute. Je salue tout particulièrement Farid Boumechal d'Algérie, Salama Abdelrahman du Maroc, Maurice Mercier de France et Roger Roussel du Canada qui a beaucoup apprécié le livre consacré aux châteaux, palais et villes historiques et finalement Osamu Aikawa du Japon. Et voici encore, comme toujours, la question du mois de mai à notre traditionnel concours qui est la suivante.
Il y a 400 ans est mort un célèbre empereur sous le règne duquel Prague est devenue un centre d'art, de science et d'alchimie. Quel était son nom ?
Je rappelle que parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant le 30 mai à l'adresse suivante crr@radio.cz. Vous trouverez les noms des vainqueurs au précédent concours sur notre site.
Rendez-vous à la foire Le Monde du Livre, Sviet Knihy, ce samedi, dans cette rubrique littéraire préparée par Václav Richter.
Rencontre littéraire. 26 pays et régions participent à la foire internationale Le Monde du Livre, dont la 18e édition se poursuit au palais industriel du Parc des Expositions à Prague. C'est la Roumanie qui est l'invitée d'honneur de cette rencontre internationale des éditeurs, des libraires, des écrivains et des lecteurs. Le public tchèque a donc une occasion unique de faire la connaissance de plusieurs auteurs roumains et de découvrir une littérature qui sort de l'ombre avec l'ambition de s'imposer dans le contexte européen. Notre grand thème de la foire est la bande dessinée, genre qui a mûri, n'est plus considéré seulement comme de la littérature pour enfants et joue un rôle de plus en plus important dans la production de livres pour adultes. Comme d'habitude, les organisateurs de la foire ont préparé un riche programme pour les exposants et le public qui peuvent participer à des débats, des rencontres avec les personnalités invitées, lectures publiques, séances de signature, colloques, cérémonies de remise de prix littéraires, etc. Le livre francophone est représenté à la foire par la France et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La responsable du stand français, Laurence Risson, du Bureau international de l'édition française, a présenté l'exposition française de cette année au micro de Radio Prague. «
Qu'est-ce que nous pouvons dire de la présentation du livre français au Salon du Livre à Prague ?
Bien, nous avons cette année suivi un des thèmes du Salon, un des thèmes d'honneur du Salon qui était donc la bande dessinée. Étant donné qu'on est sur un espace francophone cette année, qu'on a tenu à souligner, étant donné qu'on le partage avec la Belgique, avec Wallonie-Bruxelles, quoi de plus indiqué que la BD pour un stand franco-belge ? Et donc nous avons invité un auteur, Chris, qui a fait un certain nombre de bandes dessinées sur l'histoire, notamment l'histoire de la Première Guerre mondiale. Nous avons également invité un expert de la BD, une sorte d'intellectuel de la BD qui en est depuis très très longtemps, qui s'appelle Didier Passamonique, qui est belge d'ailleurs, et qui lui vient pour faire une conférence sur justement la BD historique et les biographies, puisque c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France, de même que la BD pour adultes finalement. Donc ça, c'était un pan du focus BD qu'on va faire. Et puis, nous avons également deux autres auteurs invités qui se rejoignent, enfin, alors qui sont francophones, qui ne sont pas français, justement. L'un est algérien, c'est Boualem Sansal. L'autre est turc, c'est Nedim Gürsel. Et qui, tous les deux, à un moment de leur, au début d'ailleurs, à leur début d'écrivain, ont été censurés, finalement, par les pouvoirs en place de leur pays. Et c'est peut-être ça qui les a réunis en France également. Alors ces deux hommes ne se connaissent pas, mais nous avons trouvé intéressant et assez beau finalement d'inviter deux auteurs qui, à un certain moment, je vous dis, se sont retrouvés un peu dans la résistance. Voilà, donc en gros, ce sont un peu les deux pans. Et puis à côté, naturellement, une grande collection de titres, 1000-1500 livres, qui touchent toutes les thématiques. Donc là, jeunesse, littérature, sciences humaines naturellement, philosophie, histoire, des beaux livres, des livres de cuisine, des livres de loisirs, des livres de médecine.
C'est donc la bande dessinée qui, on peut dire, est la reine de ce salon du livre, de ce stand français. On sait que la Belgique est un véritable royaume de la bande dessinée. Est-ce que en France, on lit aussi de plus en plus ce genre de littérature ?
Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Je crois que on dit malgré tout, en tout cas pour les professionnels du livre, on parle de BD franco-belge. Je crois qu'il y a un vrai rapport imbriqué entre la Belgique et la France. Peut-être que la France avait les moyens économiques tandis que la Belgique avait la créativité. Peut-être que, c'est ça, les lecteurs, il y a énormément de lecteurs français, c'est quand même ça. C'est aussi eux, étant donné qu'ils sont plus nombreux qu'en Belgique, juste par la taille, hein, je veux dire, du pays. Et donc, c'est eux qui donnent un véritable poids au marché. Donc, évidemment, les Français lisent énormément de BD, de plus en plus d'ailleurs. Je crois qu'elle est revenue. C'est vrai qu'à un moment, on était beaucoup sur les Astérix, Tintin, etc., fut un temps. Et que depuis, je dirais, une dizaine d'années, elle s'est à nouveau développée. Et là, je vous dis, avec beaucoup de biographies. C'est-à-dire que maintenant, elle aborde tous les sujets. C'est-à-dire que même des éditeurs scientifiques, par exemple, une façon pour eux de démocratiser les sciences et aussi de passer par la BD. C'est-à-dire que c'est donc le genre qui... la forme, en fait. Voilà, c'est la forme qui prime beaucoup et qui permet d'aborder tous les sujets.
Est-ce que la BD francophone est souvent traduite en tchèque ? Est-ce que vous êtes informé sur les traductions de ce genre ?
Alors, je suis assez peu informée, c'est vrai. Je m'y étais intéressée un peu il y a quelques années où il y en avait assez peu, c'est-à-dire que la BD était assez peu présente en République tchèque, comme dans beaucoup d'autres pays, je veux dire. Hein. C'est vrai que nous, en tant que Français, les Belges aussi, on est nés là-dedans. Pour beaucoup, elle s'est arrêtée à Astérix, voyez, Tintin, des choses comme ça. Donc la BD dans la nouvelle forme qu'elle prend en France, c'est-à-dire vraiment pour adultes et à ne pas entendre pour adultes érotico, je ne sais pas quoi. Donc pour adultes, c'est-à-dire qui aborde tous les sujets, y compris des sujets sérieux. Donc cette BD-là... Non, n'est pas très présente en République tchèque. C'est pour ça d'ailleurs que nous trouvions intéressant de parler de ça, parce que c'est celle qui se développe en France, et voir s'il peut y avoir un parallèle avec la résonance que ça a avec les éditeurs tchèques. Je pense que oui, parce que c'est quelque chose d'assez universel, mais allons savoir.
On dit souvent que le livre sera évincé progressivement par les médias audiovisuels. Est-ce que vous constatez cette évolution aussi en France ?
Pour l'instant, oui, bien sûr, on voit un développement. Hein. La France reste un territoire assez lent. en termes de développement des nouvelles technologies, je dirais. Déjà, les éditeurs se sont posés énormément de questions sur la législation et tout un cadre législatif et qui respecterait la chaîne du livre. Ils ont eu très peur de ce que pouvaient créer les nouvelles technologies et des barrières qu'elles cassaient. Et donc, dans un premier temps, ils ont cherché à reproduire un cadre législatif. Ensuite, je dirais qu'en tant que lecteur, que pour les lecteurs, c'est quelque chose qui se développe bien sûr, mais lentement. Ça se développe, donc ça va venir. Et je pense, donc ça c'est mon avis très personnel, mais je pense que pour l'instant, on est encore à un moment en France, et ça va durer encore quelques années, où les deux formes vont cohabiter de façon assez forte, parce qu'il y a un certain nombre de la population qui est encore très attachée au papier. Et en parallèle, évidemment, il y a une partie de la population qui va devenir très habituée à ces nouvelles technologies. Donc là, pour l'instant, il y a une cohabitation, si vous voulez, de plusieurs générations et qui fait que pour les éditeurs, ça n'est pas si mal puisque les deux formes cohabitent. Donc ça leur permet de jouer sur les deux tableaux, si ce n'est qu'il faut évidemment essayer, et c'est leur enjeu à eux et c'est leur peur, mais il faut essayer d'encadrer parce qu'on sait qu'évidemment, avec les nouvelles technologies, il peut y avoir énormément de pertes financières.
Voilà, c'est la fin de cette émission du samedi consacrée à la littérature, à vos courriers et à la littérature. Cette émission a été présentée pour vous par Anna Kubishta. Je vous retrouve dimanche pour un dimanche musical consacré au groupe alternatif Dunaï. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.